ondes de Radio Galère, un nouveau volume des carnets hebdomadaires de Comaguer, en compagnie de Sidi, que je remercie, et qui est en fait, ce que vous écoutez, va être enregistré, aura été enregistré la veille, aujourd'hui, puisque en raison de travaux techniques sur notre émetteur, il n'y aura pas d'enregistrement demain de l'émission. Mais vous l'écouterez, elle est enregistrée donc le 10 mai dans la journée. Alors je reviens pour commencer sur un sujet que j'ai abordé mais brièvement et succinctement la semaine dernière, qui était la situation politique au Honduras. Donc ce tout petit pays d'Amérique centrale, un parmi les petits pays, puisqu'en fait l'Amérique centrale a cette particularité que du sud du Mexique jusqu'au nord de la Colombie, il y a toute une série d'États plus petits les uns que les autres et qui, je ne sais pas si le rêve existe, on a même réussi à beaucoup et très bien s'entendre. Et ça, c'est un autre débat. Donc le Honduras se trouve donc désormais dirigé par un nouveau président dont je vous ai donné le nom et qui s'appelle Nayib Bukele. Alors, a priori, vous savez que c'est un nom qui avait une allure moyen-orientale. Et effectivement, après recherche sur sa biographie, qui a été pas difficile, j'ai trouvé que M. Bukele, en fait, était un descendant de Palestiniens. Donc ses parents sont nés en Palestine. Et ils ont émigré dans ce pays. Alors il y a pas mal d'émigrations donc, de Libanais, de Syriens et de Palestiniens dans différents pays d'Amérique latine, que ce soit au Honduras, que ce soit en Colombie, que ce soit au Venezuela, que ce soit en Équateur, c'est même un peu plus au sud encore. C'est pas une surprise en soi. Là où il y a une petite surprise, c'est qu'il est né dans une famille palestinienne chrétienne et une fois arrivé au Honduras, il s'est converti à l'islam. Ça, c'est l'histoire individuelle. Mais ce sur quoi je m'étais arrêté la semaine dernière, c'était que M. Nayib Bukele, qui vient d'être élu président de la République et qui est accompagné dans son mouvement, dans son service présidentiel, par un parlement, j'allais dire incroyable, avec son parti qui s'appelle Idées Nouvelles, Nuevas Ideas, en espagnol, et à la tête d'une situation politique qui lui est totalement favorable, où il peut faire à peu près ce qu'il veut. Et parmi les premières choses qu'il a faites, que j'ai signalées donc la semaine dernière, il a effectivement révoqué les membres de la Cour suprême et révoqué le procureur général. Et c'est ça qui avait suscité l'émotion immédiate. Je vais signer réaction immédiate de Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis, de Blinken, donc le secrétaire d'État des États-Unis, qui était une réaction de forte émotion. Il y avait de l'inattendu dans la décision de M. Bukele, du président Bukele. Alors qu'en est-il de ces réactions et qu'en est-il surtout du personnage? Le personnage est très jeune, il a la quarantaine, il a un parcours politique un peu particulier puisqu'en fait il a commencé par être élu localement dans une petite ville du Honduras comme membre du parti de gauche du Honduras. Alors ce parti de gauche a une histoire particulière puisqu'il s'appelle le Front Farabundo Martí et qu'il a été en fait... il descend d'une guérilla qui a eu lieu pendant toutes les années 90 et qui s'est soldée en 1992 par un accord de paix, évidemment patronné par les États-Unis. Alors pourquoi cette date? Elle est symbolique et en même temps n'est pas du tout surprenante. Qu'est-ce qui se passe en 91? C'est un événement de portée mondiale, c'est-à-dire que l'URSS disparaît. Et à partir de ce moment-là, en témoignera la première guerre du Golfe, les États-Unis se considèrent comme les maîtres du monde. Et il va y avoir toute une série d'activités politiques et militaires, la guerre de Yougoslavie, la guerre d'Irak, la première puis la deuxième, qui montreront qu'effectivement, les États-Unis se sont organisés pour être les maîtres du monde sans aucune concurrence possible. Ça a des conséquences un peu partout, et c'est ce qui a amené très certainement, enfin c'est évident, la guérilla du Front Farabundo Martí a passé un accord avec son opposant, le parti de droite, qui est constitué principalement par l'encadrement militaire, avec lequel donc, il avait lutté pendant la guérilla, sans que le Front disparaisse, sans que la guérilla disparût, mais sachant que la situation était à la domination totale des États-Unis, le Front, les dirigeants du Front Farabundo Martí ont décidé de poser les armes et de trouver un accord de gestion du pays du Honduras, de gouvernance, pour mettre un terme ainsi à la guerre civile qui avait duré donc fort longtemps. Et donc, de 1992 jusqu'à l'arrivée de M. Bukele dans le paysage politique du Honduras, l'ancienne guérilla et ses opposants, donc le parti s'appelle ARENA, donc parti composé de ministères et de la droite hondurienne, se sont alternés au pouvoir avec manifestement une entente assez bonne. Alors ça oscillait un peu d'un côté de l'autre, mais au fond, le pouvoir était partagé. C'est ce qui explique donc que, dans le début de sa jeune carrière politique, M. Bukele est élu dans une petite ville du Honduras sur les listes du Front Farabundo Martí. Donc il part du côté gauche. Et puis il va poursuivre une activité politique très, très active et il va se retrouver bientôt maire de la principale ville donc, du Honduras, de la capitale du Honduras. Et donc là, il grossit. Et puis petit à petit, on sent qu'il est moins attaché au Front Farabundo Martí. Et puis petit à petit, je passe les détails de sa carrière, mais il va arriver donc à être une première fois président de la République en 2014. Et là, il vient donc d'être réélu. Mais là, il s'est débarrassé de tous ses antécédents politiques. Il a créé son propre parti, qui s'appelle les Idées Nouvelles, je vous l'ai dit. Et donc, il se trouve donc à la tête d'un parti qui est très majoritaire au Parlement et il a quasiment tous les pouvoirs. Et là, il n'est plus ni de gauche, ni de droite, ni du centre. Il est lui-même, donc après avoir été un maire de la capitale du Honduras, il devient le chef du Honduras avec tous les pouvoirs. Et c'est ce qui l'amène donc à révoquer les membres de la Cour suprême et à se débarrasser dans le même mouvement, avec l'approbation d'un parlement qui est à sa botte, évidemment, du procureur général de la République. Et c'est là que ça commence à grincer aux États-Unis, ça a grincé très très vite, je vous l'ai dit la semaine dernière. Et on se demande, alors je ne suis pas le seul à me demander, aujourd'hui on se demande quelle est la suite de la trajectoire de ce monsieur. Donc parti à gauche, monté par les élections locales, puis la mairie de la capitale, puis la présidence, et puis maintenant aujourd'hui la présidence plus le législatif. Et c'est intéressant de regarder la réaction des États-Unis. Alors la réaction à la fois à côté des officiels, le gouvernement, je l'ai dit, le département d'État, la vice-présidente, et puis la réaction du côté des ONG qui travaillent beaucoup au Honduras et qui, en fait, dans ce cas-là, se démasquent un peu puisqu'elles défendent tout à fait la même position que le gouvernement des États-Unis, c'est-à-dire respect des institutions et puis respect de l'exécutif par rapport au législatif et au judiciaire. Et il y a le judiciaire, ça veut dire la Cour suprême et le procureur général. Et alors là, ce qui est très intéressant à noter, c'est d'essayer de regarder, alors je n'ai pas lu la constitution hondurienne dans le détail, mais ce qui est intéressant de regarder, c'est est-ce que M. Bukele avait le pouvoir en droit de procéder aux révocations auxquelles il vient de faire avec l'accord de son Parlement, je mets ça entre guillemets. Ben, apparemment, c'est tout à fait le cas, puisque la défense des États-Unis, en l'occurrence, et des ONG qui disent exactement la même chose que le département d'État, ce qui est assez notable, disons, pour être retenu, disent simplement qu'il y a déséquilibre, c'est-à-dire que l'exécutif est en train de prendre trop de poids et que le judiciaire est écrasé. Et là, on a toute une série de discours sur l'équilibre des pouvoirs, qui est un espèce de discours théorique sur les constitutions soi-disant démocratique ou qui devrait être démocratique au sens où les États-Unis et les penseurs des États-Unis et les doctrinaires des institutions aux États-Unis et les grandes institutions aux États-Unis, tout y passe, c'est-à-dire que ce qui est remis en cause là, c'est un équilibre qui se voit aux États-Unis, puisqu'aux États-Unis, vous savez que la Cour suprême n'est pas révocable. Le président en exercice a le droit de remplacer un membre qui vient de décéder, mais quand on est nommé à la Cour suprême, on y reste jusqu'à son dernier jour. Et donc il y a de fait un contrepoids au pouvoir de l'exécutif, du président et de son gouvernement par rapport à ces 9 personnes aux États-Unis qui, au fond, ont la durée pour elles et qui peuvent effectivement intervenir dans des moments décisifs sur la conduite des affaires et sur l'équilibre du pays. Mais ceci est un modèle tout à fait propre aux États-Unis. C'est-à-dire, prenons par exemple, vous savez qu'il y a un conseil constitutionnel en France qui ne joue pas exactement le même rôle qu'une Cour suprême, mais dont les membres sont renouvelés par les autorités de l'exécutif, avec des nommés par le président de la République, 3 qui sont nommés par le président de l'Assemblée, 3 par le président du Sénat. On n'a pas du tout d'inamovibilité de la structure judiciaire suprême qui est la Cour suprême. Donc ce qui est en cause, ce n'est pas du tout la législation du Honduras, c'est la lecture mondiale que les États-Unis veulent faire de l'équilibre des pouvoirs, c'est-à-dire ils veulent, comme ils font dans d'autres domaines, imposer leur mode d'élection et d'équilibre des pouvoirs au sein d'une société qu'ils considèrent comme la seule forme démocratique possible, j'insiste là-dessus, et il faut que pour avoir le statut de démocrate, il faut copier ce système institutionnel. Une Cour suprême inamovible, un président avec du pouvoir, mais avec un équilibre avec le Parlement quand c'est possible, au Honduras, il n'y a plus de problème, et une élection du président pour deux mandats. Je veux dire, l'élection pour deux mandats, à laquelle la France s'est ralliée tardivement, du président de la République, je veux dire, n'est pas en soi. Qu'est-ce qui prouve, et jusqu'où et pourquoi, que deux mandats, c'est la bonne mesure ? On ne sait pas. C'est simplement une espèce d'écrasement idéologique, politique par les États-Unis de la sphère occidentale qui pense contrôler, c'est-à-dire qu'il n'y aurait qu'un modèle d'organisation des démocraties, et à l'instant où on sort de ce modèle, on n'est plus une démocratie. Alors ça, je ne veux pas m'étendre sur ce débat-là, mais c'est évident que ce qui a craqué au Honduras, tout petit pays, c'est ce modèle-là, et le président, donc Nayib Bukele, il ne veut pas le savoir, il ne veut pas connaître ce modèle-là, il a dit « moi je peux faire ça, j'ai le Parlement qui est d'accord, je me débarrasse de la Cour suprême ». Alors, il est à l'évidence, je ne suis pas allé regarder les biographies des membres de la Cour suprême, mais ils avaient été mis en place par les gouvernements précédents, et M. Bukele veut prendre sa liberté d'action. Et il veut dire, et il dit très clairement aux États-Unis, je n'ai pas à copier le système institutionnel des États-Unis. Et vos histoires, alors je parle à sa place là, mais vos histoires d'équilibre entre l'exécutif et le judiciaire, c'est votre vision des choses, mais ce n'est pas la mienne, et je vous démontre par mes actes, et avec le soutien de mon Parlement, de ma majorité parlementaire, que ce n'est pas mon problème. Alors ça, c'est un signe d'insubordination idéologique extraordinairement fort, c'est-à-dire, alors il dit par ailleurs, mais je m'entends très bien avec les États-Unis, il n'y a aucun problème, il avait été reçu par Trump, dont il disait d'ailleurs du bien, et il dit, mais moi je fais ce que je veux, je ne suis pas du tout hostile aux États-Unis, on a de bons rapports, etc., mais je suis maître chez moi. Et ça, c'est un discours qui a de la peine à passer aux États-Unis. Beaucoup de peine. Alors, dès l'instant où on sort du modèle et qu'on dit ben, « on est allié, mais ce n'est pas vous qui commandez », on est déjà en état de semi-dissidence. Alors, c'est très intéressant à noter. Après ça, la question se pose, mais elle se pose pour beaucoup d'observateurs qui connaissent la situation en Amérique centrale. Où va M. Bukele ? Parce qu'à cette question-là, il va y avoir des réponses aux États-Unis et à l'Organisation des États américains, qui est une organisation donc fédérale qui regroupe tous les États d'Amérique latine et qui est en fait un bras diplomatique et politique de Washington. Parce que là, il est évidemment maintenant sous surveillance étroite. Où va-t-il aller ? Est-ce qu'il ne va pas avoir la mauvaise idée, je ne sais pas, d'acheter des vaccins russes ou autres horreurs diplomatiques possibles ? Ce monsieur-là est inquiétant. Je ne dis pas autre chose, d'ailleurs. Son parcours, c'est un parcours d'opportuniste politique, mais il est arrivé, il était extrêmement populaire, sa réélection à la présidence l'a démontré. Il fonctionne un peu comme Trump, c'est-à-dire il fait des tweets en quantité et il est l'homme le plus lu sur les réseaux sociaux au Honduras, jusqu'à nouvel ordre, peut-être ils se lasseront de ses discours. Mais donc, il a une ascension fulgurante, il est très jeune, il a manifestement de l'ambition et il veut faire son chemin à lui. Qu'est-ce qui va lui arriver ? Qu'est-ce qui va arriver au peuple du Honduras ? Je n'en sais pas plus que vous. C'est-à-dire qu'on a affaire à une espèce de comète qui est sortie très très vite, de fusée politique, qui veut vivre librement, voler de ses propres ailes, et qui ne veut pas rendre de compte au patron de Washington. Tout en disant, mais je m'entends très bien avec eux, je les connais, ça va, en pratique, ils peuvent venir travailler ici, il n'y a pas de souci et tout, mais je suis le patron chez moi. Alors ça, imaginez, enfin c'est très très difficile à écouter à Washington. Un monsieur qui parle au nom de 6 millions d'habitants d'un pays tout petit, où il y a en plus une base militaire des États-Unis, très importante pour la région, c'est un monsieur à suivre. Alors on le suivra ensemble sur les ondes de Radio Galère dans les chroniques hebdomadaires de Comaguerre, mais c'est un phénomène particulier, assez nouveau dans cette région-là d'Amérique centrale, mais qui risque de se reproduire et qui est intéressant, non pas parce que le personnage en lui-même est intéressant. Enfin, manifestement, il est très ambitieux, très opportuniste. On ne voit pas dans quelle direction il va. Simplement, il a fait beaucoup de sa progression politique sur la question de lutte contre la corruption et lutte contre le banditisme. Et là, l'opinion hondurienne, qu'il a très bien élue et qui a élu ses députés très bien dans les dernières élections, l'opinion hondurienne voit les chiffres, c'est-à-dire que grâce à son action dure, c'est tout à fait clair, on peut circuler aujourd'hui dans les rues des grandes villes du Honduras sans risquer de prendre une balle perdue. C'est-à-dire qu'il a marqué des points sur cette question-là. Ça, c'est un acquis, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est-à-dire que l'Honduras était ravagé par des bandes, par du banditisme, etc. Il y a un progrès. Voilà le bilan. Donc c'est plus précis et plus détaillé que ce que j'avais pu vous dire la semaine dernière. C'est une situation à suivre parce que c'est un cas quand même de rébellion ouverte, idéologique, par rapport à la pression des États-Unis dans cette région-là, qui, vous le savez, est très forte. Et elle est menée par un pays de 6 millions d'habitants, donc qui dit « mais moi je mène mes affaires et je ne reçois pas d'ordre de Washington et mes institutions, je décide qu'elles sont comme je décide qu'elles soient, elles n'ont pas à être copiées sur les institutions des États-Unis ». On va voir ce qui va se passer. Alors, est-ce que je pense que l'erreur qu'il ne fera pas, c'est de fermer la base militaire des États-Unis sur son territoire? Mais il peut faire toute une série d'autres choses, s'arranger avec ses voisins, passer des accords, je ne sais pas, avec le Nicaragua ou je ne sais qui. On a une situation extrêmement ouverte, mais très ouverte et très nouvelle. C'est-à-dire que c'est la première fois que, sans passer dans le camp adverse, parce qu'il n'y a plus de camp adverse, le Nicaragua avait des soutiens dans le camp soviétique, et donc c'était un casus belli pour les États-Unis. Là, non, non, il ne change pas de camp, il dit, il n'y a plus de camp, en fait. C'est ça la reconnaissance, c'est très très intéressant. Il n'y a plus de camp, c'est-à-dire, je suis le président du Honduras, j'ai un parlement qui est d'accord avec moi sur mes orientations, et je ne obéis pas aux ordres de quiconque. Alors, il ne dit pas de Washington, de Pékin ou de Moscou, mais il dit, je n'obéis pas. Je gère le Honduras avec les besoins des Honduriens. Et la première tâche que j'ai déjà accomplie, et c'est pour ça que je suis populaire, c'est de limiter le banditisme et la corruption. Voilà. Donc ça, c'est un acquis, et donc les électeurs ont reconnu cet acquis. Donc on reparlera certainement de l'évolution du Honduras, de ce personnage et du régime qui l'a mis en route. Je vais vous parler maintenant d'une situation alors, qui est extrêmement confuse là aussi. C'est un peu l'inverse de la situation du Honduras où quelqu'un, donc un monsieur, a pris le pouvoir et entend bien l'exercer dans sa totalité. La situation de crise réelle qui a lieu aujourd'hui en Israël. Alors qu'est-ce qui se passe en Israël? Vous savez qu'on a fait des élections plusieurs fois, enfin trois fois en deux ans des élections législatives, qui n'ont pas permis à aucun moment de constituer un gouvernement. On en est donc aujourd'hui à savoir qui va constituer le prochain gouvernement. Alors, ce qui s'est passé après les dernières élections législatives, c'est que le président de la République israélienne, M. Rivlin, a confié au chef du parti le plus nombreux à la Chambre des députés israéliens, il s'agit de Benjamin Netanyahou, la possibilité de construire le nouveau gouvernement, ce qui veut dire la nouvelle majorité parlementaire. L'équation au niveau des chiffres est simple. Le Likoud, donc parti de Netanyahou, a obtenu 30 sièges. Il y a 120 membres à la Knesset, donc le Parlement israélien. Et donc il faut rallier au moins 31 membres pour arriver à la majorité qui se situe à 61. Et donc il faut aller négocier. Alors il y a beaucoup de partis, je ne rentre pas dans les détails, beaucoup de partis, c'est pas très simple. C'est tellement pas très simple que Netanyahou n'a pas réussi. Il avait un mois entier pour réussir une négociation, pour former une équipe obtenant la majorité des sièges à la Knesset, donc les 61 voix dont il a besoin. Il n'a pas réussi. Ce qui a conduit, tout naturellement, et c'est conforme au texte, le président Rivlin a confié la tâche à quelqu'un d'autre. Alors ça, c'est notable, c'est un premier échec de Netanyahou, très clair. C'est-à-dire que Netanyahou ne sera probablement pas le prochain Premier ministre. Alors soit le nouveau postulant qui a donc été désigné et qui dispose lui aussi d'un mois pour créer une majorité parlementaire et un gouvernement y arrive, soit il n'y arrive pas non plus et on va se retrouver dans la poursuite de l'extrême confusion de la situation politique israélienne, c'est-à-dire qu'il faudrait faire encore une nouvelle élection législative, c'est-à-dire qu'on serait face à un pays qui pendant trois ans n'aurait plus du tout de direction politique. Dans la situation qu'on connaît dans cette région-là, ce qui serait très inquiétant pour lui et même pour les autres, parce que ces situations sont des situations d'instabilité, je vais en parler par ailleurs. On en est là. C'est-à-dire que M. Yesh Atid, dont vous allez voir le nom apparaître, qui est dans un parti qui s'appelle Yair Lapid, a été chargé, donc il a un mois pour le faire, par le président de la République, de constituer un gouvernement. Alors il part avec un certain nombre de handicaps, parce qu'il a moins de voix, moins de sièges au départ que le Likoud, mais il a réussi pour l'instant à rallier toute une série de partis. On est à, dans les derniers pointages, alors tout ça est très subtil, et il y a des quantités de choses qui se passent dans les coulisses, mais enfin, pour l'instant, M. Atid aurait déjà 56 voix. Donc il lui manquerait plus que 5 voix pour arriver à la majorité parlementaire et constituer le gouvernement nouveau. Mais ces 5 voix, il ne peut aller les chercher que c'est tous ceux, enfin c'est un parti qui ne lui a pas encore... qui n'a pas encore admis sa tentative, qui s'appelle le parti Naftali, qui s'appelle, oui, le parti Yamin, qui est le parti d'extrême droite. Alors, c'est un peu plus difficile parce qu'il y a d'autres petits partis centristes, travaillistes et tout, qui ont dit d'accord pour travailler avec M. Atid, mais le parti Yamin, le parti d'extrême droite, lui, n'a pas encore donné sa décision. Et lui est décisif, c'est lui qui fait basculer de 56 à 61. Le président de ce parti se tâte, il est en position forte puisqu'on a besoin de lui, donc il serait envisagé un système comme on a eu du temps de Netanyahou avec Gantz, c'est-à-dire un gouvernement à deux têtes avec 2 ans l'un puis 2 ans l'autre au poste de Premier ministre. Donc M. Bennett, d'extrême droite, serait Premier ministre pendant 2 ans et puis il céderait la place à M. Atid pendant 2 ans pour prendre la tête du gouvernement. Tout ça est déjà un peu, ressemble beaucoup à du bricolage. Et il se joue là aussi la question du ralliement du parti. Alors vous savez qu'il y a des citoyens israéliens qu'on appelle les Arabes israéliens qui sont élus, qui ont un petit parti, qui seraient a priori favorables pour travailler avec M. Atid, mais pas tous. Et quand on en est à jouer sur des majorités si précaires, avec une extrême droite qui veut pas trop, enfin, qui pense que... se reconnaît pas trop dans cette opération gouvernementale, même si elle a le poste de Premier ministre pendant 2 ans, par rapport à des députés arabes israéliens qui ne sont pas tous du même avis et qui risquent de subir des pressions, tout ça se joue autour d'une voix. Donc une seule personne qui bascule, vous imaginez tout ce qui peut se passer dans les coulisses et que vous ne lirez pas dans la grande presse. Donc on a une véritable crise politique qui continue du côté des politiques et des partis politiques pour le gouvernement d'Israël. Si ce n'était que ça, j'allais dire, tout irait bien. Parce qu'après tout, ça fait 2 ans qu'Israël n'a pas de gouvernement et que malgré tout, les choses continuent, les choses, y compris les pires. C'est-à-dire, je veux parler de la colonisation, des bombardements de la Syrie, des attaques contre Gaza, tout ça continue. Il n'y a même pas besoin de dire à quoi sert le gouvernement, puisqu'après tout, la politique israélienne se poursuit comme s'il y avait un gouvernement. Mais il n'y a pas de gouvernement. Il y a un monsieur qui gère les affaires courantes, il s'appelle M. Netanyahou. Et les affaires courantes de M. Netanyahou, c'est tous les jours des colonies, tous les jours des bombardements, tous les jours des atteintes aux droits du peuple palestinien. À quoi bon, à la dire, un gouvernement ? À quoi ça sert ? Bon. Bref, ça c'est une remarque un peu perfide de ma part, mais c'est tout à fait comme ça qu'il faut le vivre et le comprendre. Donc ce qui se passe, c'est qu'effectivement, d'une part, cette crise politique s'accompagne d'une crise morale. C'est-à-dire qu'il y a, je vais donner 2 exemples par exemple. Le premier exemple, c'est qu'il y a toute une série d'intellectuels israéliens qui ont donné, donné conseil à la Cour pénale internationale. Alors je vous ai dit, quand ça s'est passé, donc c'était au mois de mars, que la Cour pénale internationale avait décidé effectivement d'ouvrir une procédure pour juger des crimes contre l'humanité, les crimes de guerre commis sur le sol israélien. Qui pourrait l'être d'ailleurs par des Palestiniens, hein, mais c'était très ouvert. Mais du coup, Israël s'est trouvé donc soumis progressivement aux jugements et aux enquêtes de la Cour pénale internationale, qui sont en cours. Que disent ces intellectuels israéliens qui ont signé un manifeste qui est paru dans la presse nationale ? Ils disent simplement aux magistrats instructeurs qui ont été désignés par Madame le procureur de la Cour pénale internationale, ne croyez pas ce que vous dira le gouvernement israélien. Sous-entendu, le gouvernement israélien va vous mentir sur tout. Mais il y a beaucoup de sources qui prouveront, qui permettront d'établir ce qui a été fait dans le sens crime de guerre, crime contre l'humanité, sur le sol d'Israël. Donc là aussi, c'est quelque chose de tout à fait inattendu, nouveau. D'une part, le fait que la Cour pénale internationale soit saisie du dossier, le fait que des intellectuels israéliens dans le journal disent « Ne croyez pas le gouvernement israélien qui vous mentira », Ça aussi, ça pèse très très lourd. Ça veut dire que c'est une vraie crise de direction politique qui se passe pour que des intellectuels osent dire ça sans risquer, sans prendre trop de risques, on l'espère, pour eux. À ceci s'ajoute, et ça vous en avez certainement eu des échos par image ou par le son, la crise qui se joue, donc, puisque la colonisation, comme je disais, se poursuit, et qu'elle se poursuit en particulier dans les quartiers de Jérusalem-Est. Ce qui a donné lieu, d'une part, à des manifestations, un envahissement donc, du quartier prévu pour être pris aux Palestiniens, aux Arabes palestiniens qui y arrivent, et ce qui a donné lieu, donc, je crois que c'était samedi, à une contre-manifestation extrêmement puissante, numériquement, sur l'esplanade des mosquées, de la population palestinienne, arabe palestinienne, donc les citoyens d'Israël considérés comme citoyens, et pour protester contre la politique de destruction, enfin d'occupation de ce quartier, donc de destruction de l'habitat qui existe aujourd'hui, pour le remplacer par une colonie. Ça s'est assez mal passé, la mobilisation était importante, et la police, l'armée, les services secrets israéliens sont intervenus très brutalement sur cette manifestation-là, qui se tenait d'ailleurs un jour particulier, puisque je crois que c'est pas la fin du Ramadan, mais c'est un jour particulier dans le calendrier du Ramadan, qui a un nom que je n'ai pas en tête, et donc il y avait beaucoup de monde sur cette base-là, en disant « nous ne voulons pas que la mosquée Al-Quds devienne un territoire israélien, pas plus que nous n'avons accepté ce qui a été fait par Trump, que l'ambassade des États-Unis s'installe à Jérusalem ». Donc là aussi, tension extrêmement forte, tension à tous les niveaux, crise politique, crise chez les intellectuels, on pourrait dire des intellectuels libéraux, crise sur le sol par rapport à la population arabe israélienne. Tout ça fait beaucoup et ça explique qu'il y ait des flottements aux États-Unis. Cet état de crise profond à tous les niveaux de la société israélienne se répercute aux États-Unis. Et je vais vous donner un exemple, c'est montrer que la crise est profonde. Il y a eu donc un débat au Congrès des États-Unis, donc Sénat plus Chambre des représentants, donc en tout 435 personnes, un vote pour le soutien ou contre le soutien à Israël. Vous savez que tous les ans, le Congrès des États-Unis vote un soutien financier qui est un peu inférieur à 4 milliards de dollars tous les ans, et ça fait des années, des décennies que ça dure. Et là, ce n'est pas la première fois, mais là, il y a eu un débat, il y a eu un vote qui est très très important, puisque le soutien à Israël a été voté par 330 donc, congressistes, sénateurs et représentants, et il y a eu 205 voix contre, ce qui est un score jamais atteint. C'est-à-dire qu'au sein même de l'appareil politique et de la classe dirigeante des États-Unis, on se demande s'il faut continuer longtemps. Et effectivement, les 205 qui ont dit pourquoi continuer, il faudrait peut-être au contraire sanctionner, puisque Netanyahu n'arrive pas à être réélu, il continue une politique de répression, de colonisation avec laquelle nous ne sommes pas d'accord. Et donc, il faudrait arrêter, alors c'est des gens qui disent, il faudrait arrêter l'aide financière qui est considérée comme un dû par les gouvernements israéliens pour montrer qu'on n'est pas très content et pour peser sur l'orientation des affaires. Alors, c'est très nouveau, 205 voix de sénateurs et de représentants qui votent contre le soutien financier des États-Unis à Israël, c'est un tournant dans l'histoire des relations entre les deux pays. Alors, ce n'est pas passé cette fois-ci, mais ça veut dire que les interrogations sont profondes. Bien entendu, vous imaginez que Biden, qui est un vieux routier d'appui à Israël depuis qu'il est dans la carrière politique, lui est pour. Mais la majorité est relativement faible. Il faut savoir aussi que ce débat se poursuit à l'intérieur des législations des États, des États-Unis, et qu'en particulier, il se poursuit sur la question du boycott, ce qu'on appelle l'opération BDS, boycott des produits fabriqués par des Palestiniens et vendus par Israël. Bon. Il y a 26 États, alors le rapport est intéressant aussi, sur 50 États aux États-Unis, il y en a 26 qui criminalisent les opérations de boycott, c'est-à-dire vous appelez à boycotter des produits israéliens, vous risquez de faire des années de prison, c'est pas simplement une amende. Et par contre, ça veut dire qu'il y en a 24 autres qui ne criminalisent pas, c'est-à-dire où les activités de boycott des produits israéliens peuvent être défendues. Et donc là aussi, la majorité est très très serrée, hein, deux États d'avance, et donc ça veut dire que cette politique donc de refus de la pression israélienne sur les Palestiniens fait son chemin aux États-Unis. Et donc on a une espèce de répercussion sur le sol des États-Unis de cette crise politique que je décrivais à grands traits, qui se passe sur le sol israélien. Alors pourquoi ça se passe là? Parce qu'effectivement, il y a des réactions. Il y a des réactions d'abord de la population palestinienne. Il y a des réactions, je l'ai dit, donc par rapport aux nouvelles colonies qui sont ici et là. Il y a cette prise de position de la Cour pénale internationale. Il y a des intellectuels qui, de plus en plus, protestent contre la politique d'Israël. On a là un moment de fragilité de l'État sioniste qui amène certains, je pense au chef du Hezbollah libanais, qui dit de toute façon, ils n'en ont plus pour longtemps. Alors je lui laisse la paternité de son opinion, ils en ont peut-être. Mais manifestement, la situation est en train d'évoluer et elle évolue dans le sens d'une reconquête des droits par les Palestiniens sur leur avenir. C'est ça la voie qui est en train de s'ouvrir. Alors ça sera difficile, ça sera douloureux certainement, mais on a vu beaucoup, beaucoup d'horreurs déjà sur ce territoire. Mais la porte est ouverte pour cette évolution-là, ce qui n'était pas le cas avant que Netanyahou ne soit renouvelé à son poste, ce n'était pas le cas. Donc je prends sur moi ce petit côté optimiste qui méritait d'être souligné. Bien, voilà pour Israël ce que je voulais vous le signaler. Alors, dernière chose, oui, sur la... Je finis là-dessus, sur la question des hauteurs du Golan. Alors, il y a consensus aux États-Unis pour dire qu'effectivement, la capitale, Biden, enfin, les conservateurs, les républicains, les démocrates sont assez d'accord pour dire que l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, bon, ça va, c'est fait, on n'en parle plus, on n'en parle pas. Par contre, sur la question des hauteurs du Golan, donc ce territoire syrien occupé par l'armée israélienne, il y a des réticences, c'est-à-dire que le département d'État états-unien lui-même, M. Blinken, dit, écoutez, toute considération juridique mise à part, il faudra qu'on en discute, c'est-à-dire il ne dit pas, comme d'autres l'ont dit et comme Trump avait tendance à le dire, les hauteurs du Golan sont désormais un territoire israélien, il dit ça posera problème, il faudra en parler. Donc il sent bien, il y a quelque part par là, une difficulté qui va s'accroître à mon avis, parce que les capacités de défense de la Syrie vont s'élever à un niveau qui n'était pas attendu par Israël et par l'état-major. En arrière-fond de toute cette crise politique, et je finis là-dessus quand même, il y a aussi des inquiétudes militaires, puisque vous savez qu'il y a donc de ça quelques semaines, un missile syrien est arrivé jusqu'à l'intérieur du territoire donc israélien, à proximité, pas à 10 mètres, mais quand même à proximité du cœur de l'industrie nucléaire israélienne, là où on fabrique des bombes atomiques. Et donc ça veut dire que le fameux dôme de fer, selon l'expression israélienne, c'est-à-dire Israël avait mis au point un système de détection des missiles étrangers qu'il pensait impénétrable. Or ce dôme de fer a été pénétré. Et donc le missile syrien est arrivé sur le sol israélien. Il n'a pas détruit les installations nucléaires, mais il est tombé juste à côté, c'est-à-dire que le dôme a été percé. Et là, vous imaginez les états d'âme, à la fois politiques et militaires, des responsables israéliens qui disent « On croyait qu'on pouvait bombarder tout le monde et nous ne jamais l'être. Ce temps-là est passé. » De quoi aussi accélérer la crise politique. Alors si la Syrie a réussi ça, c'est qu'elle a été aidée techniquement par des systèmes mis en place par les Russes sur son territoire, qui l'ont aidée à franchir cet obstacle du dôme de fer, mais en fait elle a entre les mains aujourd'hui des armes qui peuvent atteindre le territoire israélien. Et donc c'est pour ça, à mon avis, que la position de Blinken sur le Golan est une position très prudente. Car il sait très bien que s'il se remettait à déclarer, à dire « le Golan est un territoire israélien », à ce moment-là, le dôme de fer aurait de plus en plus de peine à faire son office. Bien, ce tour-là passé, donc il mélange, vous voyez, l'actualité se répercute des États-Unis à Israël, à la Palestine et tout, parce qu'en fait, le destin de la Palestine et d'Israël est tellement lié à la politique états-unienne que tout événement et tout affaiblissement donc de la position sioniste dure, disant on fait ce qu'on veut, de toute façon il n'y aura jamais d'État palestinien et tout, c'est tout affaiblissement à ses répercussions directes dans la classe politique états-unienne. Je vous dis, j'en veux pour preuve, ces 205 voix de sénateurs et de représentants qui sont pour suspendre le soutien financier, c'est pas rien, c'est 4 milliards de dollars par an, à l'État d'Israël. On y reviendra certainement. Je regarde l'heure. Alors, Il s'est passé, on parlait élections, mais je vais rester un petit peu dans les chroniques électorales. Chroniques électorales, la plus importante et encore la plus difficile à expliquer, c'est les élections locales en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles, donc ce qu'on appelle le Royaume-Uni. Alors c'est très difficile à expliquer parce que on est habitué, nous Français, à avoir un système, bon, c'est les départementales, c'est les régionales, il y a un cadre, on n'en parle pas. Il y a en Grande-Bretagne un mélange de scrutins pour représenter la population à des niveaux locaux, avec plusieurs types d'institutions qui n'ont pas toutes les mêmes pouvoirs. Il y en a des petites, il y en a des grosses, il y en a qui sont dans les grandes villes, il y a des grandes villes qui ont des maires et pas les autres. Enfin, c'est très très compliqué, mais en fait, il y a quand même des indications sur ce scrutin qui s'est déroulé la semaine dernière, en retard d'un an, puisque vous savez que l'an dernier, au moment où ces élections locales auraient dû avoir lieu, Johnson avait décidé de les repousser d'un an. Et effectivement, il avait dit, en raison de l'épidémie, on les repousse d'un an. Bon, il a tenu parole, et donc elles ont été repoussées d'un an, elles ont eu lieu la semaine dernière. Le résultat, c'est que Johnson voit sa majorité politique, même si je dis c'est compliqué dans le nombre d'élus, dans des représentants pour des collectivités petites, grosses, moyennes, etc., mais qu'il voit sa majorité, donc qu'il a au Parlement, qui est grandiose, je le rappelle, confortée par ces élections locales. Ce que ça fait apparaître, mais je vais donner quelques indications globales, c'est que les petites villes, les petites collectivités sont entre les mains des conservateurs, c'est très très net, et qu'il y a même un progrès net dans ces secteurs-là. C'est-à-dire l'Angleterre profonde voterait plutôt conservateur, et qu'il reste comme bastion travailliste les grandes villes, donc le maire de Londres, le maire de Manchester et quelques autres, mais pas de quoi donner de l'espoir aux travaillistes de revenir au pouvoir dans un avenir très proche. Ça, c'est la première donnée, et ça s'est ajouté par le fait que le même jour où il y avait ces élections locales, il y avait une élection donc d'un député, un membre du Parlement, des communes, en raison d'un décès, et donc ce remplacement se faisait ce même jour, et là, ça s'est fait dans un bastion qui était un bastion des partis travaillistes depuis des décennies, et là, Johnson a marqué un gros point, puisque son candidat conservateur a pris une circonscription qu'on considérait comme imprenable par les conservateurs. C'est fait. Ça s'appelle Hartlepool, c'est donc dans le nord-est de l'Angleterre. Donc tout ça donne un poids et un pouvoir politique supplémentaire. Ça n'influe pas beaucoup sur la conduite des affaires nationales, mais ça justifie, ça montre la capacité de Johnson à mener la politique qu'il veut, et ça montre que le Parti travailliste n'est pas prêt de revenir au pouvoir au niveau central. Parce que c'est bien joli d'avoir la mairie de Londres et la mairie de Manchester, mais ça ne va pas plus loin que ça. Donc, habituons-nous à cette idée, Johnson est au pouvoir pour longtemps, il est très fort politiquement, une chambre commune à sa botte, il a une bonne partie de l'opinion, même populaire derrière lui, et il se passe, alors c'est une première analyse sociologique des résultats, c'est-à-dire que les grandes villes, et plutôt les couches intermédiaires, des couches moyennes, des couches, on dirait, modernistes, votent encore travaillistes, mais l'Angleterre profonde, c'est très délicat, mais il faudrait rentrer beaucoup dans le détail, mais l'Angleterre profonde, l'Angleterre des petites villes, l'Angleterre du chômage, l'Angleterre des banlieues délabrées et tout, en fait, a confiance pour l'instant, ça peut ne pas durer, a confiance pour l'instant dans les conservateurs et dans Johnson, qui sait y faire. Donc, ce que je tire comme enseignement, c'est qu'on a affaire à un politique redoutable, qui est de droite, qui est conservateur, mais qui, et c'est pas pour rien qu'il a fait, à mon avis, une biographie de Winston Churchill, est capable d'avancer avec son style de clown, là, trompeur, parce que c'est un monsieur qui a une vision assez précise des affaires et qui est en train de faire avancer les intérêts de la Grande-Bretagne et surtout qui est en train d'influencer très fortement la politique occidentale, en particulier la politique des États-Unis. Et on peut considérer sur différents dossiers, sur lesquels je ne vais pas m'attarder aujourd'hui, qu'en politique étrangère, la capacité des services secrets britanniques, la capacité qui est petite, même numériquement, de l'armée britannique, la capacité politique de l'équipe Johnson fait que aujourd'hui, sur beaucoup de dossiers internationaux, c'est le Royaume-Uni, c'est Johnson qui fait avancer les affaires américaines et les affaires de l'Occident, mais surtout les affaires américaines. C'est-à-dire on a affaire à un politique qui est en meilleure santé, qui est moins soumis à des contradictions, puisqu'il a les coudées tout à fait franches en matière de politique intérieure, il est libre de ses mouvements dans son pays, et donc son influence va être de plus en plus importante sur la politique mondiale. Je pense que c'est connu aussi bien à Moscou qu'à Pékin, etc. Puis ça commence à être connu ailleurs. Je pense qu'à Paris, on va peut-être s'en rendre compte si on ouvre un peu les yeux. C'est-à-dire que M. Johnson, alors on avait dit « Oh, ça va leur coûter très très cher de quitter l'Union européenne », ça a redonné une liberté d'action qui donne des regains d'ère victorienne à la Grande-Bretagne. Alors, c'est plus tout à fait ça, la Grande-Bretagne n'est plus maîtresse du monde, mais elle a une bonne connaissance du monde, elle a des méthodes redoutables. Je vais expliquer cet adjectif que j'utilise. Pourquoi je considère la Grande-Bretagne comme redoutable? Je considère que dans les bourgeoisies occidentales, quand c'est nécessaire, la bourgeoisie britannique est la plus féroce. Ça s'est vu dans la colonisation, ça s'est vu dans les décolonisations, et donc elle ne fait pas de quartier, ça s'est vu, alors je pense évidemment à Thatcher, Thatcher face à la grève des mineurs, Thatcher face aux dockers de Liverpool, Thatcher à l'exercice de son pouvoir, les dirigeants britanniques ont gardé de cette domination impériale une férocité, je garde le terme, une férocité qui n'a pas beaucoup d'égal dans le monde. Et comparativement, les États-Unis sont plutôt avec des gros sabots, j'arrive, je bombarde, machin chose, mais il y a moins d'intelligence stratégique bourgeoise aux États-Unis qu'il y en a dans la Grande-Bretagne de Boris Johnson. On devrait prendre ça en considération à Paris, je ne sais pas si c'est le cas, on a dû ricaner en disant « Ah, ils ont quitté l'Europe, ça leur coûtait cher ». Ce n'est pas sûr du tout. Je vais prendre un exemple qui est d'actualité lui aussi. Monsieur Johnson vient de signer avec le Premier ministre indien, Monsieur Modi, un accord commercial, alors qu'il ne porte pas sur des sommes fantastiques, mais c'est de l'ordre de quelques centaines de milliards d'euros ou de livres, ça en fait un peu plus, donc pour échanger des produits, ce qui veut dire que, au fond, Monsieur Johnson, et c'était prévisible, fait ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire dit ben, « j'aurai moins de débouchés pour mes industries dans le territoire de l'Union européenne à cause des frontières, etc. » Vous savez tout ça. Mais si le marché de l'Inde, 1,4 milliard d'habitants, s'ouvre à moi, comme le marché de l'Australie l'est déjà, le marché de la Nouvelle-Zélande l'est là, le marché du Canada l'est aussi, j'ai au fond des débouchés pour mes industries qui sont d'une autre taille que les débouchés du continent européen. Donc laissons les Européens avec leurs illusions sur le fait que le Brexit a fait beaucoup souffrir la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne est en train de reprendre le large et de s'ouvrir des horizons. L'accord avec M. Modi, je lui ai modeste, c'est moins d'un milliard d'euros, mais ça veut dire qu'il va y avoir des investissements d'entreprises indiennes sur le territoire de la Grande-Bretagne et qu'il va y avoir des investissements de la Grande-Bretagne sur le territoire indien. C'est très, très notable à suivre. Et ça fait partie de la politique qui était d'ailleurs annoncée. Johnson avait dit « Oui, oui, mais on n'est pas seul au monde. » Et c'est vrai, personne n'est seul au monde aujourd'hui. Aucun État n'est seul au monde aujourd'hui. Et donc, j'ai des amis ici et là, j'ai des habitudes, j'ai des connaissances. Et puis, donc, je ferai ce qu'il faut. À propos de connaissances et des amis ici et là, je dis deux mots au passage sur ce qui se passe au Myanmar. Alors, c'est très intéressant à suivre, il suffit de regarder. Il suffit de regarder ce que je fais, vous allez dire quelle idée, de regarder les éditoriaux de La Voix de l'Amérique, vous savez, donc la chaîne de propagande des États-Unis qui parle de l'actualité internationale. Alors, il y a des versions européennes, puis il y a une version asiatique qui parle de la situation au Myanmar. Et comment parle-t-elle de la situation au Myanmar ? Simplement en annonçant qu'il y a un gouvernement d'opposition qui a été constitué, qu'il est en train de s'armer, que les milices sont en train de se mettre en place, et que donc l'infrastructure militaire et les capacités militaires qui existaient sur le territoire du Myanmar, j'en avais déjà parlé dans certaines tribus, comme les Karen, entre autres, mais pas d'autres, cette capacité militaire est en train de s'organiser dans un contre-gouvernement qui est destiné à faire tomber le gouvernement actuel militaire du Myanmar. Et tout ça est orchestré par la Grande-Bretagne, parce que la Grande-Bretagne et ses services de renseignement ont une connaissance extrêmement pointue, beaucoup plus que les États-Unis, des relations complexes qu'il peut y avoir entre le pouvoir central en Birmanie, au Myanmar, et les différentes tribus. Il y en a beaucoup, beaucoup sont armés dans les différents coins, dans les différentes régions du Myanmar. Et donc le chef d'orchestre de la contre-opération, donc pour renverser le gouvernement actuel du Myanmar, il est à Londres. Il ne faut pas le chercher ailleurs parce qu'effectivement, on n'a pas été... Enfin, la Birmanie-Myanmar a fait partie de l'Empire des Indes et donc la Grande-Bretagne en a conservé une connaissance extrêmement détaillée et pointue. Voilà, ça c'était important à rappeler aussi. Et puis, je regarde l'heure quand même. On va passer une petite musique que j'avais prévue, vous allez savoir pourquoi après, je vous ferai le commentaire.
Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Слышит, как она поет, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет.
Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой.
C'était juste une évolution de cette fameuse chanson de la Grande Guerre patriotique donc menée par l'URSS, et qui s'appelle Katyusha, que vous connaissez certainement. Et ça a donné lieu, bien entendu, à un grand défilé militaire hier sur la Place Rouge, et puis à un discours du président. Et j'en extrais quelques phrases, parce que c'est des phrases qui... Alors, c'est pas répétitif, et c'est pas pour faire plaisir à Poutine. C'est des phrases qui sont nécessaires, parce que la façon dont, en France, et à l'Ouest en général, on écrit l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, est un travesti de la réalité historique. Et donc, il faut bien que, de temps en temps, la Russie, qui a succédé à l'URSS, rappelle ce qui s'est effectivement passé, et nous le rappelle, puisque nos dirigeants refuse de le dire, il refuse de le reconnaître. Ou font silence. Ça ne s'est pas passé. Ça s'est passé. Que dit Poutine ? Ce qu'il a dit hier. Nous nous souviendrons toujours que c'est le peuple soviétique qui a réalisé cet exploit majestueux au moment le plus dur de la guerre, dans les batailles décisives ayant déterminé l'issue de la lutte contre le fascisme. Alors effectivement, les batailles décisives, on connaît, c'est Koursk, Stalingrad, la bataille de Leningrad aussi, la bataille de Moscou, tout ça mérite d'être rappelé. Et il faut rappeler que la chute du nazisme est conclue par l'arrivée à Berlin des troupes soviétiques qui pénètrent dans le Reichstag et qui pénètrent dans le bunker où était l'équipe d'Hitler, ça l'amène, lui, à se suicider. Et donc, la chute du nazisme, ce n'est pas une opération menée par ce qu'on appelle aujourd'hui les Occidentaux. Il n'y avait aucun soldat français, aucun soldat anglais, aucun soldat des États-Unis à Berlin le 10 mai 1945. Il n'y avait que des soldats soviétiques. Et c'est l'URSS qui a fait tomber le régime. Et s'il n'y a pas eu de régime, enfin il y a eu des suites, parce qu'il y a un certain nombre de responsables nazis qui n'ont pas été condamnés et qui ont poursuivi leur carrière avec la bénédiction des Occidentaux, mais s'il n'y avait pas eu l'arrivée de l'armée rouge à Berlin, le nazisme n'était pas vaincu, n'était pas éradiqué. C'est ça qu'il faut rappeler, parce que c'est trop facile. On a tendance à déséquilibrer, c'est-à-dire on vous parle du 6 juin 44 et tout, mais il faut savoir que les trois quarts de l'armée nazie étaient sur le front russe. Et donc, il y avait peu de monde du côté français et britannique. C'est pour ça que, d'ailleurs, la progression des troupes des États-Unis et puis des troupes britanniques et françaises qui étaient de leur côté a pu être si facile. C'est-à-dire que le gros de l'armée russe, l'armée nazie, était sur le front russe, ce qui permettait d'aller facilement sur le front ouest. Ça, il ne faut jamais l'oublier, mais on a tendance à le faire et puis à mythifier le 6 juin 44, etc. etc. Qu'est-ce qu'il ajoute ? Qu'est-ce qu'il ajoute ? Alors, il ajoute qu'il faut rappeler qu'il y a eu entre 25 et 30 millions de morts en Union soviétique, à la fois dans les combattants et dans les civils, puisque l'armée nazie, quand elle a avancé à partir du 21 juin 1941, n'a pas fait de quartier et elle détruisait tout ce qu'elle trouvait de soviétique, en uniforme ou pas. Et elle détruisait les écoles, les usines, les chemins de fer, tout ce qui était destructible, elle l'a fait. Et donc, ce que rappelle Poutine, c'est la simple vérité. La guerre a apporté tellement de souffrances insupportables, de malheurs et de larmes, qu'il est impossible de l'oublier. Ceux qui développent de nouveaux plans d'agression injustifiés ne seront donc pas pardonnés. Cela fait presque un siècle depuis l'époque où l'effroyable monstre nazi se renforçait en faisant preuve plus fréquemment d'insolence. Les slogans de la primauté nationale et raciale, de l'antisémitisme et de la russophobie retentissaient de manière de plus en plus cynique. Censés stopper le risque de la guerre mondiale, les accords faisaient l'objet d'une remise en cause. Alors là, il fait allusion aux accords type Munich, c'est-à-dire aux accords pendant lesquels, au terme desquels plutôt, la Grande-Bretagne et la France ont dit à Hitler « tu peux envahir qui te veut, sauf nous ». Alors, bien entendu, comme il n'avait pas de parole, il a commencé par envahir les autres, par occuper la Tchécoslovaquie. Et puis, le moment venu, bien sûr, il est rentré dans la France parce que, de toute façon, il n'avait pas de parole. Qu'ajoute Poutine, in fine ? Aujourd'hui, nous voyons une foule de massacreurs rescapés et de leurs successeurs. Nous assistons également à des tentatives de réviser l'histoire. C'est exactement ce que je vous disais. De justifier les traîtres et les criminels qui ont le sang de centaines de milliers de civils sur les mains. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là ? C'est qu'on trouve aujourd'hui, donc dans les gens qui critiquent ces commémorations à la soviétique, donc à la russe maintenant, pour être à jour, il y a des nostalgiques du Reich et il y a des gens qui ont été recyclés dans les appareils politiques européens et états-uniens qui veulent faire croire que, de toute façon, c'est les États-Unis qui ont gagné la guerre. Ben, c'est pas ça du tout. Et ce qu'il faut se rappeler, et c'est ça la leçon politique la plus importante, c'est que l'élimination du nazisme, ça a été l'élimination de l'antisémitisme, ça a été l'élimination, il n'y avait pas de l'antisémitisme, il y avait l'antislavisme, c'est-à-dire que dans les écrits de Hitler, qui étaient lus, qui étaient disponibles, dans Mein Kampf, il était dit que les Slaves étaient des êtres inférieurs, donc un Polonais était un être inférieur, un Tchèque était un être inférieur, un Russe était un être inférieur, un Biélorusse était un être inférieur, les homosexuels étaient des êtres inférieurs, bien entendu, et les militants de gauche étaient des êtres pas inférieurs, mais condamnables, à telle enseigne que, dans les premières semaines de l'arrivée d'Hitler au pouvoir, ce n'est pas les Juifs qui ont été mis en prison, ce sont les militants syndicaux et les militants des partis socialistes et communistes. Les premiers camps, qui n'étaient pas des camps d'extermination, mais qui étaient des camps de concentration, sont des camps destinés à l'opposition de gauche. C'est ça qu'il faut savoir. Et c'est ça le nazisme, c'est cette accumulation de haine, haine contre la gauche, haine contre les syndicats, haine contre les ouvriers, haine contre les slaves, haine contre les homosexuels, haine contre les tziganes. C'est un régime de haine à vocation qui se voulait une vocation mondiale. C'est ça qui a été arrêté par la victoire soviétique. C'est pas rien. Mais c'est bon de le rappeler, et je le fais avec plaisir. Voilà. On en est quelques minutes de la fin. Il nous reste combien de temps là ? 3 minutes. Bon, alors je vais simplement parler de la prochaine émission de Comaguerre sur Radio Galère, qui aura lieu donc ce mercredi à 20h. Ce sera une émission très particulière, donc, qui s'inscrit dans le cadre d'une campagne lancée par le gouvernement cubain pour demander à ce que les États-Unis lèvent l'embargo installé depuis 60 ans contre le territoire cubain. Alors je rappelle, simplement lever l'embargo, c'est permettre à Cuba de vivre et c'est permettre à Cuba de faire comprendre qu'il n'a rien fait aux États-Unis qui lui veulent du mal depuis cette date-là. Cuba n'a commis aucun crime contre les États-Unis, par contre l'embargo est un crime. Et donc à cette occasion, nous aurons en ligne, en direct, M. l'ambassadeur de Cuba à Paris, qui nous expliquera la situation très très concrètement. Et on pourra évoquer, ce que je fais rapidement devant vous, la lettre ouverte à Emmanuel Macron, qui a été établie donc, par le soutien à cette initiative, demandant à Emmanuel Macron de décrire, parce que ce qui va se passer, c'est qu'à l'Assemblée générale des Nations unies, qui se tient le 23 juin, où la question de la levée de l'embargo à Cuba sera mise aux voix, la France va voter, comme elle le fait depuis 20 ans, pour la levée de l'embargo, et puis ça s'arrêtera là. C'est-à-dire que beaucoup de gens, dont je suis, considère que la politique de la France est hypocrite, c'est-à-dire elle va à l'Assemblée des Nations Unies en disant « Ah, c'est pas bien l'embargo », et en fait elle laisse faire l'embargo sans jamais protester. Donc ce que demande cette lettre ouverte à Emmanuel Macron, c'est « Arrêtez l'hypocrisie, vous votez contre l'embargo, allez jusqu'au bout, et écrivez publiquement à M. Biden de l'arrêter, il a la capacité politique de le faire, aujourd'hui il a la majorité au Sénat, à la Chambre des représentants, si Biden dit « On arrête l'embargo », les élus doivent suivre ». C'est une situation tout à fait rare et la France devrait en profiter. Est-ce qu'Emmanuel Macron le fera ? Nous verrons. Donc on se retrouvera mercredi à partir de 20h pour écouter la présentation par Monsieur l'ambassadeur de France à Paris, l'ambassadeur de Cuba, pardon, en France, de la situation de Cuba soumise à l'embargo, qui est une situation extrêmement grave pour la santé, pour l'économie cubaine, et c'est une atteinte aux libertés d'un État petit mais courageux. Merci de votre attention, merci Sidi, et donc à mercredi soir.